Oui, Europe Soir avec notre invité à 18h20 tout juste. Il est l'une des grandes voix de la culture en France, directeur du Théâtre du Rond-Point à Paris. Bonsoir Jean-Michel Ribes.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous avez l'habitude, et vous avez raison, de rappeler qu'il y a plus de gens qui vont au théâtre que dans les stades de football. Est-ce que ce soir, vous êtes rassuré par l'annonce du Premier ministre qui promet 2 milliards d'euros d'aide au secteur culturel? Est-ce que le compte y est ou c'est trop peu?
Mais je ne sais pas si je me trompe, mais j'avais entendu 5 milliards il y a peu de temps. Et maintenant, c'est 2 milliards, donc c'est mieux que rien. Mais non, ce qui est très important, par-delà la somme elle-même, c'est de montrer que la culture fait partie, est un organe de la nation comme les autres. Parce que, si vous voulez, il y a eu un petit silence sur la culture qui était effarant.
Comment vous l'expliquez ça d'ailleurs? C'est une forme de mépris ou de méconnaissance? Parce que c'est vrai que c'est important la culture. 700 000 emplois, je crois, en France direct, beaucoup par effet de ricochet, et puis une industrie qui participe au PIB de la France massivement.
Massivement, 190 millions de touristes qui viennent chaque année en France, c'est pas pour voir comment on fabrique des radiateurs.
Ouais.
C'est quand même...
Ni acheter des voitures, oui.
Ouais, c'est quand même un rayonnement, il y a un esprit français, il y a quelque chose qu'avait très bien compris De Gaulle, d'ailleurs, quand il a appelé Malraux, sur ce rayonnement, sur quelque chose qui est notre pétrole. Et c'est quelque chose d'important, parce que les Français ne s'en aperçoivent peut-être pas, mais la culture est tous les jours, partout, dans leur langage, dans non seulement dans le cinéma, le théâtre, la musique, mais tout ce qu'ils entendent, tout est culturel comme tout est politique. Et je crois que ce qui est important, c'est d'avoir replacé la culture à travers ce geste du Premier ministre et de Roselyne Bachelot, dans un endroit où les citoyens peuvent comprendre que c'est aussi important que de respirer.
Le Premier ministre a même lancé une forme de cri du cœur ce matin à la radio. Il a dit « Sortez, allez au cinéma, allez au théâtre, remplissez les salles ». J'imagine que vous accueillez cet élan de solidarité favorablement.
Vous savez, Valérie disait « L'homme de génie est celui qui m'en donne ». Donc allez voir des gens géniaux et vous aurez du génie.
Oui, c'est vrai qu'il y a les têtes d'affiche dans la culture, les chanteurs, les comédiens, les vedettes, mais aussi toutes les petites mains. Je disais, c'est 700 000 emplois directs, 90 milliards d'euros qui participent à l'économie de la France en 2018. Vous avez l'habitude aussi de rappeler que ça rapporte deux fois plus à la France que l'industrie automobile, par exemple, la culture.
Oui, non, enfin, quand vous dites des petites mains, c'est les grandes mains, parce que, vous savez, la culture, c'est une...
C'est une expression.
Oui, mais j'entends bien qu'il n'y a pas de mépris dans ce que vous dites, mais je veux dire que la culture, c'est un art collectif. On peut pas faire du théâtre tout seul, on peut pas faire du cinéma tout seul, on peut pas aller dans un musée ou consommer tout seul. Donc c'est un art collectif, c'est un art qui fait que les gens échangent autour d'émotions, se disent aussi que, voilà, tout est possible. On va dans un musée, on se dit, ah bah oui, si on invente ça, tout est possible. C'est vraiment une issue de secours. Là.
Vous avez rencontré Roselyne Bachelot qui a entamé une série de rencontres avec des acteurs de la culture.
Oui.
Vous l'avez vu quand?
Je l'ai vu avant-hier.
Qu'est-ce que vous lui avez dit?
Je lui ai dit déjà qu'elle avait bonne mine, que ça me rassurait et qu'elle allait avoir besoin.
Elle vous comprend, elle vous entend, Roselyne Bachelot.
Non, c'est quelqu'un qui est très proche des artistes, c'est quelqu'un qui communique, c'est quelqu'un qui entend. Elle a un chantier gigantesque, il faut qu'elle voit tous les dossiers, mais je pense qu'elle aime ça. Ouais. Et elle a en plus cette double qualité d'être à la fois ministre de la Culture et en même temps docteur en pharmacie. Donc ça permet un peu d'équivaloir un petit peu les dangers et les pas-dangers.
L'annonce de la suppression de la distanciation dans les théâtres et les salles de spectacle, enfin on a envie de dire, puisque c'est déjà le cas dans les transports depuis longtemps, c'est le cas dans les entreprises, pourquoi avoir mis tant de temps à la décider dans ces lieux de rassemblement culturel?
Écoutez, moi je pense qu'il y a eu on a stigmatisé les lieux de culture, enfin les cinémas, les théâtres, comme si c'était des sources de clusters, je ne sais pas quoi, c'est faux. Maintenant, pourquoi avoir pris tant de temps? Je dois dire que c'était pas facile de décider tout ça. Les gens qui disent fallait qu'il y avait cas, etc., c'est un peu compliqué. C'est très difficile à gérer une pandémie. Et bon, on a essayé, ils ont essayé de faire au mieux. Cela dit, le mieux n'a pas été le mieux. Et maintenant, on commence à comprendre quand même qu'il y a des endroits qui doivent vivre, simplement pour l'économie du pays, mais je dirais même pour le désir. Vous savez, la culture, c'est aussi le rêve, c'est aussi l'utopie. On ne peut pas vivre sans utopie. Et l'utopie, elle est chez les créateurs.
Jean-Michel Ribes, vous avez une idée de l'impact social que peut avoir cette crise du Covid sur le monde de la culture?
L'impact social, oui, c'est, je veux dire, pardonnez-moi, je vais parler de mon théâtre, le théâtre du Rond-Point. il y a 70 personnes qui travaillent, il y a 70 personnes qui sont en chômage technique, il y a des gens qui sont un petit peu désespérés. Là, on rouvre, on repart. Mais j'ai inventé un petit truc, c'est que j'ai la chance d'avoir un théâtre qui est entouré de jardins, donc je vais mettre le rond-point dans le jardin, je mets un grand tréteau derrière et tous les soirs, entre 6h30 et 7h30, qui est un horaire auquel dans lequel on programme d'habitude, il va y avoir chaque soir des artistes, Arditi, Morel, etc., qui vont venir donner un spectacle gratuit. Je signale gratuit.
Alors, vous savez que le Premier ministre est un grand fan d'Europe Soir, il paraît qu'il nous écoute tous les soirs, enfin je l'espère, c'est ce qu'on m'a dit, Jean Castex. Oui. Si vous aviez un message à lui faire passer ce soir, quel serait-il ?
Qu'il continue à être clair, qu'il surtout continue à être clair. Il dépoussière un peu, il est clair. Même si ça fait mal, il est clair. Et je dois dire que j'ai été touché par, je ne m'y attendais pas, par l'intérêt et l'enthousiasme qu'il a eu pour défendre nos espaces culturels.
C'est un bon Premier ministre ?
Comment ?
C'est un bon Premier ministre ? C'est l'homme de la situation ?
Écoutez, pour l'instant, je dirais que je ne lui donnerai pas tout de suite son congé. Je le garderai encore un petit
Vous
peu.
Vous le connaissez ?
Pas du tout, je n'ai jamais rencontré. Si, enfin, on a quelque chose en commun, c'est qu'on est des Pyrénées tous les deux.
Bien, ce qui est une gageure déjà. Est-ce que vous vous êtes expliqué avec Roselyne Bachelot sur cette dérogation qui a été donnée au cœur de l'été, au Puy du Fou, un spectacle de 9000 personnes autorisées alors que partout c'était interdit et que toute l'industrie du spectacle était à l'arrêt ? Est-ce que vous en avez parlé avec
avant.
Elle
Oui, j'en ai parlé,
et 12 000
évidemment.
Personnes avant, c'est vrai.
Oui, j'en ai parlé avec elle, surtout que j'étais sur une chaîne concurrente à la vôtre et on passait en même temps. Donc elle s'est expliquée en disant mais il n'y a jamais eu de passe-droit, mais ceci, mais cela. Et puis depuis, il y a eu un décret du 10 juillet qui autorisait tout le monde à le faire. Sauf que, qui était au courant de ce décret ? Personne. Tous les festivals qui auraient pu convenir et aller dans les règles de ce décret l'auraient fait, mais aucun n'a été prévenu. On ne savait pas. Il y a là une grande maladresse. Alors, tant mieux. Je n'imaginais pas que Emmanuel Macron ait fait du copinage avec De Villiers parce que c'était suicidaire. Je ne suis pas dans la théorie du complot. Je ne pense pas qu'il y ait eu du népotisme, mais c'était incompréhensible.
Vous avez le 06 d'Emmanuel Macron maintenant parce que
Comment
vous avez le 06 d'Emmanuel
Moi,
Macron.
Moi, j'ai le 06 de tous les présidents de la République.
Il faut peut-être l'appeler la prochaine fois directement. Oui. Merci infiniment pour ces quelques mots, Jean-Michel Ribot.
Merci à vous.
D'Europe Soir. Une courte